Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. L'émission se fera depuis le tabernacle de Temple Square à Salt Lake City, en Utah, aux États-Unis. Nous souhaitons une bienvenue toute spéciale à ceux qui assistent pour la première fois. Nous espérons que ces réunions vous fortifieront et vous apporteront des bénédictions. Je suis John C. Pingree, fils 70 de l'interrégion de Salt Lake City. Nous souhaitons la bienvenue à Richard Maines, de la présidence des 70, et nous sommes reconnaissants que Sir Maines l'accompagne ce soir. Nous vous présenterons un peu plus tard Frère et Sir Maines, qui seront les orateurs ce soir. Nous sommes reconnaissants de la présence sur l'estrade de Frère Spendlove, commissaire du département d'éducation de l'Église, et de Frère Spendlove, président de la mission de Salt Lake City et de sa femme. Nous souhaitons également la bienvenue à Frère et Sœur Richards, ainsi qu'à tous les administrateurs des séminaires et instituts de religion et de nombreux présidents de pieux, de jeunes adultes locaux et de leurs femmes. Pour commencer cette veillée, le chœur et l'assemblée chanteront le cantique « La première prière » de Joseph Smith, cantique numéro 14 dans le recueil des cantiques français. Nous remercions Regan Cabidas, du pieu de jeunes adultes de Taylorville, qui dirigera la musique, et de Bonnie Goodliff, organiste du tabernacle, qui nous accompagnera. Après le cantique, Emma Smith, du pieu d'étudiants mariés de Salt Lake, fera la prière d'ouverture.
Notre merveilleux Père Céleste, nous sommes si reconnaissants pour ce jour de sabbat et l'occasion que nous avons de nous réunir ici. En tant qu'amis, membres de des familles, nous prions que ton esprit sera avec ceux qui nous parleront aujourd'hui, qu'ils seront guidés par toi et qu'ils reçoivent de la force de toi. Que nous puissions avoir ta bénédiction, que ta bénédiction soit sur notre prophète, qu'il ait l'énergie dont il a besoin pour continuer à faire cette œuvre. Nous t'aimons et nous te disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, Smith, pour cette prière. Ce soir, nous sommes accompagnés par un chœur composé de jeunes adultes inscrits à l'Institut de religion d'Orem et de dernière année de lycée, inscrits dans des classes de séminaire du Taff Valley. Ils chanteront « Tout au sommet des monts ». Il est dirigé par Ryan Eggett, un directeur de chœur à l'Institut de l'Université du Taff Valley, et accompagné par les organistes du Tabernacle, Bunny Godleff et Linda Margetts. À la suite de l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'entendre Nancy Maines, suivie de Frère Maines. À la fin du discours de Frère Maines, le chœur interprétera « Vas-tu faiblir aux jeunesses ?». Ensuite, Andrew Morin, un président de collège d'anciens du pieu de jeunes adultes seuls d'Oladay, fera la prière d'ouverture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter les orateurs de ce soir. Richard Jemens a été soutenu comme 70 autorité générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours le samedi 5 avril 1997. Il a été soutenu comme membre de la présidence des 70 le vendredi 20 janvier 2012. Fermens a aussi été président des interrégions des Philippines et de l'Ouest de l'Amérique du Sud. Au cours de ses nombreuses années de service dans l'Église, il a été entre autres missionnaire à plein temps en Uruguay et au Paraguay et président de la mission de Monterrey au Mexique. Il a été propriétaire et président directeur général d'une compagnie spécialisée dans l'automatisation industrielle. Il a obtenu une licence de sciences de l'Université Brigham Young et une maîtrise de gestion des affaires de l'école de gestion Thunderbird. Richard John Maines est né à Berkeley, Californie, le 29 octobre 1950 et il a épousé Nancy Jean Purrington en août 1974. Sœur Maines a consacré sa vie à sa famille et au service dans l'Église. Elle a eu des appels d'instructrice et de dirigeante dans toutes les auxiliaires des sœurs de l'Église. Sa femme et lui ont 4 enfants et 11 petits-enfants. Le chœur va maintenant chanter « Tout au sommet des monts ».
Now look up.
Je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui avec mon mari et l'occasion que j'ai de vous parler. Quand mon mari m'a annoncé qu'il allait parler du rétablissement de l'Évangile et en particulier de la première vision de Joseph Smith, nous avons parlé de l'influence qu'avait eu ce sujet dans ma vie et de l'influence positive que pourrait avoir mon expérience pour fortifier votre foi. Je suis une convertie à l'Église et j'aimerais vous faire part de mon expérience la plus chère, l'histoire de ma conversion. J'ai grandi dans un foyer plein d'amour avec des parents merveilleux. Nous n'allions pas à l'église souvent, mais en tant que membre de l'église presbytérienne, nous allions toujours à l'église à Pâques et à Noël. Et parfois, ma mère m'emmenait à l'école du dimanche. C'est là que j'ai eu mon premier témoignage du Sauveur. J'aimais écouter des histoires à propos de Jésus. Je savais qu'il était quelqu'un de spécial. Enfant, j'avais besoin de prier chaque soir dans mon lit. Je savais que notre Père Céleste m'écoutait. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai commencé à fréquenter des jeunes hommes de mon âge et j'ai commencé à connaître les frustrations, les déceptions et les découragements qui accompagnent parfois ces sorties. Peut-être que certains d'entre vous ont ressenti les mêmes choses, mais il y a une différence. Vous avez l'Évangile dans votre vie. Quelle merveilleuse bénédiction! L'Évangile vous donne un but et vous renforce. Cela vous donne de l'espoir. À ce moment de ma vie, je savais qu'il me manquait quelque chose. J'avais l'impression que je n'avais aucun vrai but ou direction dans ma vie. J'ai commencé à aller dans d'autres églises, espérant trouver des réponses. Je cherchais quelque chose qui donnerait du sens à ma vie, mais je ne savais simplement pas où le trouver. Un jour particulièrement difficile, j'ai décidé de prier. Alors, je me suis agenouillée à côté de mon lit, ce que je ne faisais pas d'habitude, et j'ai déversé mon âme à Dieu en lui demandant de m'aider et de me guider. Je me suis sentie mieux et je suis retournée à mes activités quotidiennes. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une réponse à ma prière. Un jeune homme qui venait de rentrer de mission est entré dans ma vie. Il s'appelait Richard Jones Means. Il m'a proposé de sortir avec lui et a fait ce que d'anciens missionnaires font. Il m'a demandé si je connaissais l'Évangile, l'Église et si j'avais déjà lu le livre de Mormon. Peu de temps après, il m'a donné un livre de Mormon pour que je le lise. J'ai commencé à le lire et l'une des choses qui a attiré mon attention a été la page de titre qui disait « Le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ ». Je ne savais pas du tout que le livre de Mormon parlait de Jésus. J'ai aussi commencé à suivre des leçons missionnaires et une lumière s'est allumée dans ma vie. Quand les missionnaires m'ont parlé du jeune Joseph, à qui était apparu Dieu le Père et son fils Jésus-Christ, qui étaient deux êtres distincts, cela semblait vrai, comme si j'y avais toujours cru. Mais dans mon église, ce n'est pas ce qu'on enseignait. La première vision a été une partie importante de ma conversion. Je me suis sentie proche de Joseph Smith parce qu'il s'était posé la même question que moi. Où puis-je trouver la vérité? Notre Père Céleste avait répondu à sa prière sincère et il avait répondu à la mienne. J'ai continué à suivre toutes les leçons et je ressentais que ce qu'on m'enseignait était vrai. L'ancien missionnaire Richard John Smith m'a baptisé cet été-là. Nous avons continué à nous fréquenter et un an plus tard, nous étions mariés dans le temple de Manti en Utah. Mais ce n'était que le début de ma conversion. Et comme pour beaucoup d'entre nous, la conversion est un processus. Il faut nourrir et renforcer notre témoignage chaque jour en lisant les Écritures, en priant, en allant à l'église, en allant au temple et en suivant le prophète. Les Écritures doivent être une partie importante de notre vie. Quand j'étais une jeune fille, pas membre de l'Église, on m'a demandé d'apprendre par cœur une Écriture de mon choix. J'avais choisi Proverbes 3, 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je ne peux pas vous dire combien de fois cette écriture m'est venue à l'esprit quand j'ai eu besoin de l'aide d'en haut. Si nous exerçons notre foi et faisons confiance au Seigneur, sachant que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans notre vie, et si nous n'oublions pas de le remercier pour les nombreuses bénédictions que nous avons, il nous montrera le chemin. Cela peut ne pas arriver selon notre calendrier, mais je sais que notre Père Céleste a un plan pour chacun de nous. Une autre de mes écritures préférées est dans Doctrine et Alliance 123:12. Car il y a encore beaucoup sur la terre, parmi toutes les sectes, parmi tous les partis et les confessions, qui sont aveuglés par la tromperie des hommes et leurs ruses dans les moyens de séduction, et qui ne sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Il est très important que nous, membres de l'Église, tendions la main et fassions connaître l'Évangile autour de nous. Il y a tant de personnes, comme moi, qui cherchent, mais qui ne savent pas où la trouver, où trouver la vérité. Les deux décisions les plus importantes que j'ai prises dans ma vie ont été de me faire baptiser et de me marier au temple avec mon mari. Je suis très reconnaissante d'avoir l'Évangile dans ma vie. Nous savons tous que parfois la vie n'est pas facile. Il faut juste nous souvenir des paroles de Jeffrey R. Holland qui a dit « Le maître du ciel et de la terre est là pour vous bénir. Confiez-vous en lui. Confiez-vous en de toutes vos forces en lui. Confiez-vous toujours en lui. Je sais que notre Père Céleste existe vraiment. Il nous aime et entend nos prières. Je sais que Jésus-Christ est notre Sauveur. Il est mort pour chacun de nous et il nous a fait le grand don du repentir qui nous permet de faire des changements dans notre vie afin de nous améliorer chaque jour. Je sais que nous avons un prophète vivant, Thomas S. Munson, et je sais que le prophète Joseph Smith a vu le Père et le Fils et nous a donné le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Je prie pour que vous continuiez de renforcer et de nourrir vos témoignages chaque jour en faisant ce que le Sauveur et nos prophètes nous ont enseigné. Je prie pour que vous continuiez de faire confiance au Seigneur et pour que vous sachiez qu'il vous connaît et qu'il aplanira vos sentiers. Je dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Brothers and sisters, frères et sœurs, j'aime entendre l'histoire de la conversion de ma femme Nancy et voir l'influence que la première vision de Joseph Smith et le Livre de Mormon ont eu sur son témoignage et sa conversion. J'ai été ravi d'avoir pu jouer un rôle missionnaire en lui présentant l'Évangile de Jésus-Christ plusieurs années après mon retour de mission à plein temps. Comme vous pouvez le penser, je suis comblé de la façon dont les choses se sont passées pour nous. La vie que nous menons à l'Église et en famille représente tout pour nous. Je suis reconnaissant de la tâche que m'a donnée la première présidence de m'adresser à vous ce soir. Il est important que vous sachiez que j'ai ressenti l'influence et l'inspiration du Saint-Esprit pendant la préparation de ce message et j'espère que vous profiterez spirituellement de ce qui va être dit ce soir. Le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ dans les derniers jours a été prévu et prédit par les prophètes tout au long de l'histoire. Pour cette raison, le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ ne doit pas être une surprise pour les personnes qui étudient les Écritures. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Livre de Mormon contiennent des dizaines et des dizaines de prophéties qui prédisent clairement le rétablissement de l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, ces passages se retrouvent dans Deutéronome, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Amos, Malachie. Dans le Nouveau Testament, on les trouve dans Matthieu, Marc, Actes, Romains, Éphésiens, Thessaloniciens et Apocalypse. Dans le Livre de Mormon, on trouve de nombreuses autres prophéties parlant du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Ces passages se trouvent dans 1 Néphi 15, 2 Néphi 16, Jacob, et dans 3 Néphi. L'une de mes prophéties préférées du rétablissement se trouve dans le Livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, assiégea et envahit Jérusalem vers 586 avant Jésus-Christ. Après avoir vaincu Juda, ce roi ordonna à Ashpenaz, l'un de ses chefs, de faire venir des enfants d'Israël afin qu'ils fussent conseillés dans son palais. Le roi demanda qu'ils fussent doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction capables de servir dans le palais du roi. Dans ce groupe se trouvaient Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Vous vous souvenez probablement que pendant leur captivité, ces jeunes gens reçurent les nouveaux noms babyloniens de Belshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego, afin d'être mieux endoctrinés dans la culture babylonienne. Le roi eut l'occasion de consulter ces quatre jeunes judéens. Les Écritures nous disent que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Un soir, pendant qu'il dormait, le roi fit un rêve. Il fut perturbé et voulut en connaître l'interprétation. Il décida de tester ses conseillers en faisant une demande inhabituelle. Il appela ses magiciens, ses astrologues et ses enchanteurs et leur ordonna de lui raconter son rêve puis de l'interpréter. Il se fit assez menaçant dans sa requête. Le roi leur dit, « Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. » Lorsque les conseillers du roi ne parvinrent pas à lui faire connaître son rêve et ne pouvant ainsi l'interpréter, le roi se mit dans une immense colère et ordonna de faire périr tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses compagnons. Mais Daniel parvint à obtenir une audience du roi et le convainquit de lui laisser le temps d'interpréter son rêve. Il rentra chez lui et annonça la nouvelle à ses compagnons. Ils supplièrent le Seigneur de révéler le secret de la vision du roi, afin que les sages de Babylone et eux ne périssent pas. Les Écritures donnent le résultat de cette supplication. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Après avoir loué et remercié Dieu, Daniel alla voir Arjok, le capitaine des gardes du roi, et lui dit, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Une fois Daniel amené en sa présence, le roi lui posa cette question, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu dans son explication ?» Daniel répondit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Puis, Daniel révéla le rêve au roi Nebuchadnezzar. Il déclara, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était devant toi, elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. » Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sur le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'or et l'argent furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Après avoir raconté le songe au roi, Daniel en donna l'interprétation. Il déclara, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. » C'est toi qui es la tête d'or. Daniel continua d'expliquer au roi les différents royaumes qui allaient succéder aux siens, représentés par la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Puis vint la prophétie sur le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu dans les derniers jours. Daniel déclara, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Frères et sœurs, le rétablissement et la croissance de l'Église et de l'Évangile de Jésus-Christ dans ces derniers jours est le commencement de l'accomplissement de cette prophétie détaillée faite par Daniel, prophète d'autrefois. Propulsons-nous maintenant 2400 ans après le règne du roi Nebuchadnezzar, juste avant le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Je veux vous parler du contexte historique qui conduisit à la première vision de Joseph Smith. Le grand-père de Joseph Smith, Azael Smith, était soldat dans l'armée américaine pendant la guerre d'indépendance et assista à la naissance d'une nouvelle nation. En 1788, les parents de Joseph Smith, Joseph et Lucy Mack, étaient encore des enfants au moment de la ratification de la Constitution des États-Unis d'Amérique, dont le premier amendement datant de 1791 garantissait que le gouvernement ne contrôlerait pas l'Église et réciproquement. Ainsi, l'État américain n'avait pas d'emprise sur la religion et les citoyens étaient libres de choisir leur Église et de ne pas en avoir. Plus tard, Azael Smith se réjouit du libre exercice de la religion dans le nouveau pays. Il affirma « Dieu nous a conduits dans une glorieuse révolution et nous a amenés dans la terre promise de paix et de liberté. » Après la Révolution américaine, l'évolution des transports, des moyens de communication et de l'industrie aida à instaurer la culture de la République dans la nouvelle nation. Les banques étaient établies pour financer de nouvelles entreprises dans l'économie de marché ouverte. En plus des changements dans la société et la culture américaine, un mouvement de renouveau spirituel, appelé par les historiens le deuxième grand réveil, vit le jour à la fin des années 1790 et allait durer plusieurs décennies. Ce renouveau se caractérisait par des réunions en plein air, des prédications exaltées et pleines d'émotions et la conversion d'un grand nombre de personnes. Les plus grands bénéficiaires du deuxième grand réveil furent les baptistes et les méthodistes qui rejetèrent la doctrine calviniste populaire de la prédestination telle qu'elle était enseignée dans les églises congrégationalistes de l'époque. Les calvinistes pensaient que Dieu était un souverain arbitraire qui prédestinait les hommes et les femmes au salut. Pour les calvinistes, en raison de la chute, les hommes et les femmes étaient des pécheurs corrompus et n'avaient pas le pouvoir de choisir le salut grâce au Christ. Pendant le deuxième grand réveil, les baptistes et les méthodistes prêchèrent un Dieu plus bienveillant et soulignèrent que le salut était un choix individuel. Cette vision du salut personnel trouvait son origine par une grande partie de l'arminianisme, rassemblant les doctrines du théologien néerlandais Jacobus Arminius. Arminius, et plus tard les dirigeants religieux américains, croyaient que la grâce de Dieu dotait les personnes de la capacité de choisir le Christ et qu'ils avaient le pouvoir de sauver toutes les personnes qui choisissaient d'être sauvées. C'est au milieu de ces notions opposées du salut que l'engagement religieux des membres de la famille de Joseph Smith s'est frayé un chemin. Le grand-père et le père de Joseph Smith, Azael et Joseph, rejoignirent la vision des Arminiens d'un Dieu bienveillant et aimant. Azael Smith écrivit par la suite « Jésus-Christ peut sauver tout le monde ou personne ». Azael et Joseph prirent le nom d'universaliste et croyaient que Dieu rachèterait toute l'humanité sans exception, ce qui s'opposait totalement à la vision calviniste d'un salut plus sélectif. L'environnement religieux de Lucy Mack reste inconnu avant 1802, date à laquelle elle fut atteinte d'une maladie grave et promit à Dieu qu'elle ferait de son mieux pour le servir si sa vie était épargnée. Après avoir guéri de sa maladie, Lucy Mack écrivit « Je ne disais pas grand-chose au sujet de la religion, mais mon esprit était complètement absorbé par le sujet. » Joseph et Lucy Mack déménagèrent de ville en ville à la recherche d'un salut à la fois temporel et spirituel. Pendant cette période déconcertante d'instabilité, Joseph Smith naquit à Sharon, dans le Vermont, le 23 décembre 1805. La famille Smith finit par s'installer à Palmyra, New York, près de Manchester. Elle y trouva une grande animation religieuse près de leur nouvelle maison. Entre 1816 et 1821, les baptistes, les presbytériens et les méthodistes s'étaient beaucoup développés dans la région, avec la formation d'une nouvelle assemblée presbytérienne, la construction d'un nouveau lieu de culte méthodiste et la conversion de centaines d'hommes et de femmes. Lucy Mack s'intéressa au presbytérianisme, mais, en ses propres termes, trouva que tout était vide. Elle fréquenta ensuite les méthodistes, mais son mari Joseph la dissuada de continuer car son père, Azaël, et lui n'avaient pas foi dans les doctrines qu'ils enseignaient. Bien que n'appartenant à aucune église, Joseph et Lucy Mack Smith essayaient d'enseigner à leurs enfants, chez eux, des principes chrétiens, notamment la lecture de la Bible et la prière personnelle. Quand il était enfant, Joseph Smith, fils, assista à plusieurs réunions de réveil religieux avec sa famille. Il fut grandement influencé par les enseignements et les discussions de son père qui ne parvenait pas à trouver parmi les églises rivales une qui fût organisée selon l'ordre ancien de Jésus-Christ et de ses apôtres. Joseph écoutait et méditait pendant l'étude biblique en famille. À l'âge de 12 ans, il commença à s'inquiéter pour ses péchés et le bien-être de son âme immortelle, ce qui le conduisit à sonder lui-même les Écritures. Il écrivit ce qui se passa quand il eut 14 ans. « Je lus un jour l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jamais aucun passage de l'Écriture ne toucha le cœur de l'homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. Il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon cœur. J'y pensais constamment, sachant que si quelqu'un avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, c'était bien moi. Joseph décida finalement de demander à Dieu. Joseph écrivit ou dicta quatre récits connus de sa première vision. Ses contemporains écrivirent aussi leurs souvenirs de ce qu'ils entendirent Joseph dire de la vision. On connaît cinq de ces récits. C'est une bénédiction d'avoir ces récits. Ils font de la première vision de Joseph Smith la vision la plus documentée de l'histoire. Je vous recommande de consulter history.lds.org pour en apprendre davantage sur les récits et pour voir comment ils se complètent pour donner un aperçu global de ce qui s'est passé. La rubrique « Récits de la première vision » dans les sujets de l'Église en anglais explique « Ces récits se ressemblent beaucoup, mais ils comportent quelques différences de mise en relief d'éléments et de détails. Les historiens savent que lorsqu'une personne raconte une expérience dans des contextes différents à des publics différents, sur de nombreuses années, chaque récit met l'accent sur différents aspects de l'expérience et contient des détails uniques. » En fait, on trouve des différences semblables et celles apparaissant dans les récits de la première vision, dans les récits multiples de la vision de Paul sur la route de Damas et de l'expérience des apôtres sur la montagne de la Transfiguration. Pourtant, en dépit des différences, une cohérence fondamentale persiste dans tous les récits de la première vision. Certaines personnes ont avancé, à tort, que la moindre variation dans le récit de l'histoire est une preuve de son invention. Au contraire, la richesse historique de ces récits nous aide à comprendre cet événement remarquable beaucoup mieux que s'il était moins bien documenté. J'aimerais revoir brièvement avec vous les quatre récits qui furent écrits ou dictés par Joseph Smith. Tout d'abord, le récit de la première vision de 1832 fut le premier à être écrit. Il fait partie d'une autobiographie de 6 pages, principalement écrite de la main de Joseph. Ce document est en possession de l'Église depuis qu'il a été écrit. Après le voyage vers l'Ouest, il est resté dans une malle pendant plusieurs années et était largement inconnu jusqu'à ce qu'il soit publié dans une thèse de maîtrise en 1965. Il a ensuite été publié à plusieurs reprises, notamment sur lds.org et dans « The Joseph Smith Papers ». Dans ce document, Joseph parle de son désarroi de ne pas savoir comment recevoir le pardon du Seigneur. Il témoigne « Le Seigneur ouvrit les cieux sur moi et je vis le Seigneur », ce que certains ont interprété comme l'apparition d'un seul être divin. Mais à la lumière des autres documents, on peut comprendre que cette phrase veut dire que Dieu le Père a ouvert les cieux et révélé son Fils Jésus-Christ à Joseph. Ce récit met merveilleusement en lumière l'expiation du Sauveur et la rédemption personnelle qu'il offre à Joseph. Il dit, entre autres, « Le Seigneur ouvrit les cieux sur moi et je vis le Seigneur et il me parla, disant, « Joseph, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Je fus crucifié pour le monde, afin que tous ceux qui croient en mon nom aient la vie éternelle. » Joseph témoigna qu'il ressentit de la joie et de l'amour, mais ne parvint pas à trouver quelqu'un qui le crût. Il dit, « Mon âme était remplie d'amour, et pendant de nombreux jours, je pouvais me réjouir d'une joie immense, et le Seigneur était avec moi, mais je ne parvins à trouver personne qui veuille croire la vision céleste. Néanmoins, je méditais sur ces choses dans mon cœur. » Il y a ensuite le récit de 1835 où Joseph décrit sa vision à Robert Matthews en visite à Kirtland à cette période. Il fut noté dans le journal de Joseph par son secrétaire. Il ne fut pas inclus dans les premières éditions de l'histoire de Joseph et fut publié dans BYU Studies dans les années 60. Dans ce récit, Joseph témoigna que Dieu lui apparut en premier et qu'il vit ensuite le Sauveur. « J'implorais le Seigneur en prière fervente. Une colonne de feu apparut au-dessus de ma tête. Elle se posa sur moi immédiatement et me remplit d'une joie inexprimable. » Un personnage apparut au milieu de cette colonne de flammes qui s'était répandue tout autour sans que rien ne soit consumé. Un autre personnage semblable au premier apparut bientôt. Il me dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Dans ce récit, Joseph remarqua aussi, « Je vis de nombreux anges dans cette vision. » Ensuite, le récit de 1838 est le plus connu et est tiré de l'histoire manuscrite de Joseph. La première ébauche fut écrite au début de l'année 1838, après la fuite de Joseph de Kirtland, et la deuxième version en 1839, peu après qu'il se fût échappé du Missouri. Elle fut donc écrite dans un contexte de grande opposition. Elle fut d'abord publiée en 1842 dans Times and Seasons. En 1851, elle fut aussi incluse dans la Perle de Grand Prix, qui était à l'origine une brochure pour les saints britanniques, puis reconnue comme écriture canonique en 1880. De nombreuses versions de ce récit sont publiées dans The Joseph Smith Papers. Comme dans le récit de 1835, la question essentielle est de savoir quelle Église est vraie. Comme il s'agit de l'histoire de l'Église et non simplement de celle de Joseph, ce récit présente la vision comme étant à l'origine de l'expansion et des progrès de l'Église. C'est pourquoi il ne mentionne pas le pardon personnel dont parlent les deux récits précédents. Enfin, le récit de 1842 répond à une demande de renseignement faite par John Wentworth, éditeur du Chicago Démocrate. Joseph lui écrivit une lettre qui, en plus des articles de foi, contenait une description de sa première vision. La lettre fut publiée dans Times and Seasons en 1842. Avec la permission de Joseph, elle fut de nouveau publiée en 1843 par l'historien Israël Daniel Rupp dans son livre sur les confessions chrétiennes des États-Unis. Ce récit s'adressait à une audience connaissant peu les croyances mormones. Il fut écrit au cours d'une accalmie bienvenue dans l'opposition que le prophète rencontrait. Comme pour les autres récits, Joseph parla de la confusion qu'il ressentit et de l'apparition de deux personnages en réponse à sa prière. Il dit « Je fus enveloppé dans une vision céleste et vis deux personnages glorieux qui avaient exactement les mêmes traits et se ressemblaient, entourés d'une lumière plus resplendissante que le soleil à midi. Ils me dirent que toutes les confessions religieuses croyaient en des doctrines incorrectes et qu'aucune d'elles n'était reconnue par Dieu comme étant son Église et son royaume. Je reçus le commandement formel de ne pas aller vers elles et en même temps la promesse que je ne connaîtrais la plénitude de l'Évangile à l'avenir. » C'est une bénédiction d'avoir ces récits de la première vision de Joseph Smith. De même que les évangiles du Nouveau Testament se complètent pour décrire la vie et le ministère du Christ, chaque récit décrivant la première vision de Joseph Smith ajoute des détails et une perspective unique à l'événement. Ils racontent tous l'histoire de Joseph de façon cohérente et harmonieuse. Ils soulignent tous qu'il y avait de la confusion et des querelles parmi les églises chrétiennes, que Joseph désirait savoir laquelle avait raison, s'il y en avait une, qu'il a sondé les Écritures et prié, qu'une lumière est descendue du ciel et que des êtres divins sont apparus et ont répondu à sa prière. Je vais maintenant vous lire en détail la version canonique de 1838 du récit de Joseph Smith de la première vision. C'est l'apprentissage le plus puissant que l'on peut avoir sur Terre. Cette expérience a changé la vie de Joseph. Elle a changé ma vie. Et je sais qu'elle a changé votre vie ou la changera si vous allez au Seigneur pour qu'ils en confirment la réalité. Il est dit, Enfin, j'en vins à la conclusion que je devais ou bien rester dans les ténèbres et la confusion, ou bien suivre le conseil de Jacques, c'est-à-dire demander à Dieu. Je me décidai finalement à demander à Dieu, concluant que s'il donnait la sagesse à ceux qui en manquaient et la donnait libéralement et sans faire de reproches, je pouvais bien essayer. Ainsi donc, mettant à exécution ma détermination de demander à Dieu, je me retirai dans les bois pour tenter l'expérience. C'était le matin d'une belle et claire journée du début du printemps de 1820. C'était la première fois de ma vie que je tentais une chose pareille, car au milieu de toutes mes anxiétés, je n'avais jamais encore essayé de prier à haute voix. Après m'être retiré à l'endroit où je m'étais proposé au préalable de me rendre, ayant regardé autour de moi et me voyant seul, je m'agenouillai et me mis à exprimer à Dieu les désirs de mon cœur. À peine avais-je commencé que je fus saisi par une puissance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une influence si étonnante que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas parler. Des ténèbres épaisses m'environnèrent et il me sembla un moment que j'étais condamné à une destruction soudaine. Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu de me délivrer de la puissance de cet ennemi qui m'avait saisi, et au moment même où j'étais prêt à sombrer dans le désespoir et à m'abandonner à la destruction, non à un anéantissement imaginaire, mais à la puissance d'un être réel du monde invisible qui possédait une puissance étonnante, comme je n'en avais encore jamais senti de pareil en aucun être, juste à cet instant de grande alarme, je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière plus brillante que le soleil descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. À peine était-elle apparue que je me sentis délivré de l'ennemi qui m'enserrait. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle des confessions avait raison, afin de savoir à laquelle je devais me joindre. C'est pourquoi, dès que je fus assez maître de moi pour pouvoir parler, je demandai au personnage qui se tenait au-dessus de moi dans la lumière laquelle de toutes les confessions avait raison, car à l'époque, il ne m'était jamais venu à l'idée qu'elles étaient toutes dans l'erreur et à laquelle je devais me joindre. Il me fut répondu de ne me joindre à aucune, car elles étaient toutes dans l'erreur. Fin de citation. Comme il est dit sur lds.org dans Récits de la première vision, Joseph Smith a témoigné à plusieurs reprises qu'il a eu une vision remarquable de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Ni la véracité de la première vision, ni les arguments contre elle ne peuvent être prouvés par les seules recherches historiques. Pour connaître l'authenticité du témoignage de Joseph Smith, il faut que la personne qui cherche sincèrement la vérité étudie le document et exerce suffisamment de foi au Christ pour demander à Dieu, dans la prière sincère et humble, si le récit est vrai. Si celui qui cherche demande avec l'intention réelle d'agir en fonction de la réponse révélée par le Saint-Esprit, la véracité de la vision de Joseph Smith lui sera manifestée. De cette manière, chacun peut savoir que Joseph Smith a parlé honnêtement quand il l'a déclaré « J'avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier. » D'après Joseph F. Smith, le plus grand événement qui se soit jamais produit dans le monde depuis la résurrection du Fils de Dieu et son ascension au ciel a été l'apparition du Père et du Fils au jeune Joseph Smith. Frères et sœurs, il est aussi étonnant qu'instructif d'analyser ce que cette expérience sacrée et grandiose de Joseph Smith nous apprend. J'aimerais mentionner les vérités que la première vision de Joseph Smith nous apprend concernant la nature éternelle de notre Père Céleste, son Fils Jésus-Christ, l'existence de Satan, l'opposition entre le bien et le mal et concernant d'autres aspects du grand plan de salut. Nous apprenons que les Écritures sont vraies et peuvent être prises littéralement et appliquées à notre vie. Nous apprenons que la méditation des Écritures apporte de la force et de la compréhension. Nous apprenons que la connaissance seule n'est pas suffisante. Lorsque nous agissons conformément à ce que nous savons, nous recevons les bénédictions de notre Père Céleste. Nous apprenons à placer notre confiance en Dieu, à chercher auprès de lui les réponses aux questions les plus importantes de la vie et à ne pas placer notre confiance dans l'homme. Nous apprenons que les prières sont exaucées en fonction de notre foi inébranlable et selon la volonté de notre Père Céleste. Nous apprenons la réalité de l'existence de Satan et qu'il a le pouvoir réel d'influencer le monde physique, nous y compris. Nous apprenons que le pouvoir de Satan est limité et surpassé par le pouvoir de Dieu. Nous apprenons que Satan ne s'arrêtera devant rien pour détruire l'œuvre de Dieu et qu'il devait connaître l'importance de Joseph Smith dans son rôle de prophète du rétablissement. Nous apprenons que nous devons vaincre Satan en suppliant Dieu et en ayant totalement foi et confiance au Seigneur. Nous apprenons qu'il y a la lumière, l'obscurité. Que lorsqu'il y a la lumière, l'obscurité est obligée de s'en aller. Nous apprenons que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont deux êtres séparés et distincts, qui ont des caractéristiques identiques et se ressemblent. Nous apprenons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous apprenons que le Christ est ressuscité. Nous apprenons que Dieu nous connaît personnellement et connaît nos besoins et nos préoccupations. Il a appelé Joseph par son nom. Nous apprenons la relation qui existe entre Dieu le Père et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'en remet à son Père, et le Père communique avec les hommes sur terre grâce à son Fils Jésus-Christ. Nous apprenons que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de son Père, comme celui-ci l'appelle. Nous apprenons que la véritable Église de Jésus-Christ, comme il l'a organisée à l'origine, ne se trouvait pas sur terre à l'époque de Joseph Smith, confirmant la réalité de la grande apostasie prédite par l'apôtre Paul. Nous apprenons que lorsque nous désirons que Dieu contribue à notre vie, il nous révélera un chemin pour nous améliorer. À l'époque de Joseph, toutes les confessions et les sectes avaient tort. Nous apprenons que chaque dispensation reçoit les visions, les bénédictions et les gloires de Dieu. Nous apprenons comment Dieu choisit ses prophètes. Nous apprenons que Dieu choisit les purs de cœur, qui sont justes et qui ont des désirs honnêtes pour accomplir son œuvre, confirmant l'enseignement de la Bible que Dieu regarde le cœur et ne fait pas de choix basé sur l'apparence extérieure, le statut social ou la réputation. Frères et sœurs, la première vision est la clé qui révèle les nombreuses vérités qui sont restées cachées pendant des siècles. N'oublions pas les vérités précieuses que la première vision de Joseph Smith nous a apprises et ne les tenons jamais pour acquises. L'apparition de Dieu le Père et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à Joseph Smith a ouvert la dispensation de la plénitude des temps. Nous devrions faire part de cet événement sacré et des choses qu'il nous a apprises aux personnes que nous aimons et dont nous nous soucions. Voici deux questions auxquelles vous pourriez réfléchir, répondre et sur lesquelles vous pourriez échanger sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag LDSDevo. Quelle vérité la première vision de Joseph Smith vous a-t-elle apprise? Comment le Seigneur vous a-t-il répondu lorsque vous avez cherché la vérité et la réponse aux questions que vous avez posiez? Je suis impatient de lire ce que vous avez à dire sur ce sujet fondamental et ces questions importantes. Je vais conclure en vous parlant d'une autre vérité que j'ai apprise en me concentrant sur la première vision de Joseph Smith tandis que j'instruisais des missionnaires à plein temps. Il y a plusieurs années, j'ai eu le privilège de servir dans la présidence de l'interrégion des Philippines. Les membres de la présidence parlaient à tour de rôle lors des veillées tenues au centre de formation des missionnaires de Manille. Les nouveaux missionnaires venaient d'environ 14 pays différents d'Asie et du Pacifique. Alors que notre mission aux Philippines touchait à sa fin, nous avons eu une dernière occasion de parler aux missionnaires au cours d'une veillée au centre de formation des missionnaires. Je me souviendrai toujours être assis sur l'estrade à regarder l'assemblée de ces merveilleux missionnaires. Je priais pour avoir l'inspiration de parvenir à leur dire quelque chose qui allait les aider à comprendre l'immense importance de l'œuvre dans laquelle ils venaient de s'engager. En réfléchissant à ce que je pourrais dire, mes yeux ont été attirés par une peinture accrochée au mur de l'auditorium. C'est un tableau que vous avez probablement vu dans votre église. Il s'agissait de la peinture connue de Dell Parsons représentant la première vision de Joseph Smith. Elle montre Joseph Smith âgé de 14 ans dans le bosquet sacré, recevant les instructions de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. J'ai commencé mon message aux missionnaires en montrant ce tableau et en leur expliquant qu'à ce moment-là, Joseph Smith, agenouillé dans le bosquet sacré, en train de prier pour être guidé dans sa vie, représente toutes les personnes passées, présentes et futures qui recherchent sincèrement la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il se posait la même question que toutes ces personnes sincères et honnêtes. Lorsqu'il a demandé au Seigneur laquelle de toutes ces églises était vraie, il cherchait en fait la vérité. Il cherchait le but de sa vie. Il cherchait le grand plan du salut de notre Père Céleste. Y avait-il des missionnaires autorisés sur la terre à l'époque de la prière sincère de Joseph Smith pour répondre à sa question ? Non, il n'y en avait pas. Ainsi, à cet instant sacré, notre Père Céleste et son Fils bien-aimé Jésus-Christ sont apparus et ont répondu à la demande du jeune Joseph et le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ a commencé. Comme Joseph Smith, les amis de l'Église qui ont le plus de chances de prendre et de tenir des engagements et de progresser finalement vers le baptême sont ceux qui recherchent activement la vérité et leur but sur terre. Ce n'est pas seulement une leçon importante pour les missionnaires à plein temps, mais aussi pour nous lorsque nous faisons connaître l'Évangile. Il est également important de remarquer que beaucoup des personnes à la recherche de direction et d'objectifs sont du même groupe d'âge que vous qui participez à cette veillée. Ils sont vos amis et vos proches. Ma femme Nancy était dans cette tranche d'âge lorsqu'elle cherchait la vérité et le but de sa vie. Mes jeunes amis, quelle bénédiction remarquable pour nous tous d'être nés à une époque où l'Évangile de Jésus-Christ a été rétabli sur terre dans sa plénitude. Je vous témoigne que par cette magnifique journée de printemps de 1820, Joseph Smith a reçu la visite de Dieu le Père et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous rends témoignage que les choses sacrées qui lui ont dites et que Joseph a reçu humblement, étaient toutes en accomplissement des prophéties des saints prophètes tout au long de l'histoire de la terre. Je vous témoigne également de la liberté religieuse permise par la création des États-Unis d'Amérique et que cette création a contribué à préparer le chemin du rétablissement. Je témoigne encore de la véracité des paroles du président Hinckley au sujet de la première vision. Il a dit « Au cours de ces minutes, longues ou brèves, Joseph Smith en a appris davantage au sujet de la nature de Dieu que tous les théologiens érudits de tous les temps. » Quelle occasion remarquable pour nous de faire connaître notre témoignage du rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ dans ces derniers jours. Frères et sœurs, la vérité a été rétablie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Mon Dieu Père éternel, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir eu l'occasion d'être ici assemblés dans le monde entier en tant que jeune adulte pour être instruits et édifiés par frère et sœur Mainz. Nous sommes reconnaissants pour le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ et le courage et la foi de Joseph Smith. Et alors que tu es apparu à Joseph avec ton fils et que tu as rétabli tout sur la terre. Nous te remercions pour l'occasion d'être sur la terre aujourd'hui et de recevoir les bénédictions de l'évangile rétabli. Nous prions que nous puissions trouver le moyen de partager l'évangile autour de nous, afin que nous soyons également renforcés en tant que corps du Christ. Nous prions pour que nous puissions être des exemples à tous ceux qui nous entourent, à notre façon de vivre, que nous soyons des disciples du Christ dans tout ce que nous faisons. Nous t'aimons et nous sommes reconnaissants pour cet évangile, l'évangile et l'occasion que nous avons d'avoir été instruits ce soir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen.